Bon, merci d'avoir donné la parole. Le titre, c'est pareil, hein, mais je parlerai plus particulièrement du cas de Madagascar. Donc, pour Madagascar, peut-être, je vais le situer un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une grande île au sud-ouest de l'océan Indien. C'est un pays producteur de riz. En 1914, la superficie ici cultivée est de 1 400 000 hectares et la production nationale en pâtis se chiffrait à 3 900 000 tonnes. Comme opportunité, on pourrait dire que la riziculture, c'est la première activité économique en milieu rural à Madagascar. Ça implique 2 millions d'exploitants agricoles et le riz est cultivé partout à Madagascar dans toutes les zones agroécologiques et ça représente donc 55% des terres cultivées et 87% des exploitations agricoles. Donc c'est une forte potentialité riziculture. Avec une quinzaine de grands bassins de production, mais seulement suivant l'importance de la production, il y a des zones qui sont exportatrices nettes, ce qui est en vert sur la carte. Exportatrices nettes, c'est-à-dire ce sont les zones qui sont déjà autosuffisantes en riz et qui peuvent donc approvisionner les autres supérieures à 75 000 tonnes. Ce qui est en bleu clair, ce sont les zones exportatrices nettes, mais plutôt inférieures à 75 000 tonnes. Si vous remarquez, ça se situe surtout sur la côte ouest de Madagascar, le centre-ouest surtout, les zones qui sont exportatrice nette, et également le Moyen-Ouest, ce qui est écrit, Bouglava, ce sont des zones qui produisent beaucoup du riz, ou exportatrice également la région centrale du Vakhnakarat. Il y a des zones consommatrices nettes supérieures à 75 000 tonnes, ce sont surtout les grandes agglomérations, les régions des Hautes Terres, ou là où se trouve la capitale malgache, par exemple, et des zones consommatrices nettes également supérieures à 75 000 tonnes. On remarque surtout la région sud de Madagascar, la région aride de Madagascar. Voilà donc en ce qui concerne un peu la situation. Comme opportunité également, Madagascar a la chance d'avoir trois grands types de riziculture. Je ne parlerai pas de la riziculture pluviale sur brûlis, mais il y a surtout la riziculture de bas-fond et la riziculture pluviale. Et c'est une opportunité parce que si l'extension du riz de bas-fond est presque impossible, sinon limitée, le riz pluvial, par contre, présente encore un potentiel foncier important. Donc, c'est l'avenir aussi de la riziculture à Madagascar. Et il y a diverses conditions de culture en riziculture de bas-fond. Il y a d'abord le riz irrigué. Le riz irrigué, donc, j'ai appelé riz de bas-fond tout ce qui est riz qui se fait sur les plaines et les bas-fonds. Mais le riz irrigué, donc, c'est vraiment le riz qui dispose de la bonne maîtrise d'eau. Il y a aussi le riz fortement inondé. Et il y a le riz, la riziculture, qui souffre, qui ne dispose pas du tout de la maîtrise d'eau et qui souffre de l'alternance d'assèc et de submersion. Et nous avons deux grandes saisons culturales pour le riz. Il y a la première saison qui coïncide un peu avec la saison pluvieuse qui va du mois de novembre au mois d'avril. Et il y a une deuxième saison qui va du mois de mai au mois de septembre et qui se pratique surtout en zone côtière parce que sur les hautes terres, l'hiver, le froid d'altitude ne nous permet pas vraiment de cultiver le riz pendant la période hivernale, là, de mai à septembre à peu près. Une autre opportunité, c'est le soutien de la recherche. Le FOFIFA, donc, parmi les 8 centres régionaux qu'il a à Madagascar, travaille sur le riz et soutient en quelque sorte la production viticole dans 5 de ces centres régionaux à travers aux différentes conventions de partenariat avec différents partenaires techniques et financiers, donc, que j'ai représenté ici. Vous remarquerez le Centre régional de recherche du Vakinakarata, où nous avons les Japonais avec un projet qui s'appelle PAPRI, où nous avons SPAD avec le CIRAD, l'Université d'Antananarivo, l'IRD avec plusieurs partenaires. Il y a également le ZUCAS, le Japonais, l'AZARECA et bien sûr l'AFRICARES. Voilà, donc c'est là que ça se concentre surtout les travaux de recherche sur le riz. Et je l'ai dit tout à l'heure que le Vatikarat figure parmi donc les zones exportatrices nettes de riz. Il y a également la région du Nord-Ouest. C'est également une zone exportatrice nette. Et nous avons un grand projet avec la Banque mondiale et le JICA. Sur le riz dans cette région, Policy, Human Resource Development, également dans la région du Moyen-Ouest et le Sud-Ouest, avec la Banque mondiale et la BAD, et la région du lac Alote également, c'est quand même le grenier à riz de Madagascar de longue date, et nous travaillons également là-bas dans ce centre. Et suite à ce soutien de la recherche, donc pour les différentes régions, comme le riz se cultive un peu partout dans la région, la recherche a recommandé donc pour ces différentes zones une gamme de variétés adaptées aux différentes conditions agroécologiques, c'est-à-dire aux différentes conditions de culture que j'ai essayé de brosser tout à l'heure. Et ce n'est pas donc les variétés améliorées qui manquent. Ou si on parle du riz à Madagascar. Et l'opportunité également, il y a divers projets ou opérations de développement qui œuvrent pour le développement de la riziculture à Madagascar. J'ai essayé de représenter ici quelques-uns, mais toujours est-il, il faut aussi reconnaître que les actions de ces différents projets devraient être aussi un petit peu coordonnées pour qu'il y ait plus de synergie. Voilà pour les opportunités. Pourtant, Madagascar n'est pas encore autosuffisante en riz. C'est vrai que nous sommes pas très loin de l'autosuffisance. Mais toujours est-il, en 2015 par exemple, Madagascar en a importé 235 000 tonnes de riz. C'est la quantité la plus importante que nous avons importée depuis. C'était dû au fait qu'en 1914, nous avons connu un grand problème d'inondation, et ce qui fait que la production rizicole a été fortement ou affecté, et finalement, donc il a fallu importer une quantité importante. C'est plus que le double de ce qu'on en importe habituellement tous les ans. C'est quoi donc les défis à relever? Actuellement, Madagascar est considéré comme le grenier à riz de la zone océan Indien et aussi de la sous-région Afrique. Le défi que nous devrons relever, donc, c'est d'arriver à atteindre l'autosuffisance en riz, mais tout en dégageant des surplus pour l'exportation. Donc, là, l'augmentation de la production est indispensable, et pour le faire, il faudrait d'abord améliorer la productivité. Et en améliorant la productivité, si on pense à l'exportation, nous devrons également améliorer la compétitivité du riz produit à Madagascar. Et l'augmentation de la production devrait aussi passer obligatoirement par la valorisation durable des superficies disponibles pour l'agriculture pluviale. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le riz de bas-fond ne peut plus être étendu. Il faudrait donc plutôt voir une autre option. Et comme on a la chance d'avoir des collines exploitables pour l'agriculture pluviale, on devrait donc les valoriser davantage. Et c'est surtout en riziculture de bas-fond qu'il faudrait intensifier davantage pour améliorer la productivité. Et comment donc, comme ce n'est pas seulement la satisfaction des besoins nationaux en riz qu'il faudrait arriver à atteindre, mais comme il faudrait aussi une production donc tournée vers le marché, nous pensons que nous devrons plus s'appuyer sur la riziculture familiale, les micro-producteurs, avec une stratégie risicole de subsistance surtout. Ce sont des riziculteurs qui n'ont pas beaucoup de capital, la taille de leur exploitation est trop petite, ils n'ont pas aussi le moyen, par exemple, d'adopter les facteurs de production essentiels pour une meilleure productivité, mais plutôt de développer des producteurs semi-spécialisés en riz et qui se positionnent sur la vente de riz. Et ce sont des types de producteurs qui ont un potentiel technico-économique d'intensification en termes de taille de l'exploitation, des moyens de production et aussi des niveaux d'équipement supérieurs, moyens de production, c'est-à-dire qui a la possibilité donc de fertiliser, la possibilité de se procurer des variétés améliorées, des semences de qualité. Et eux, donc, actuellement, leur type, ils peuvent satisfaire leurs besoins de consommation tout en vendant une proportion non négligeable de leur récolte. Le défi, donc, l'objectif, c'est de tendre vers le doublement de la production en 2020 par rapport à 2014, soit un volume de 8 millions de tonnes de paddy à produire. Et par quelle voie, quelle stratégie? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réduire le coût de production. La mécanisation est un moyen de le faire, mécanisation plus intense. Améliorer également le taux d'utilisation des variétés améliorées et des semences de qualité. La contribution de la recherche, donc en quelque sorte, se trouve en ce point-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les variétés qui ont été recommandées par la recherche, qui ont été mises au point. Donc, il y a toute une gamme pour chaque zone de production risicole. Mais nous devrons surtout faire beaucoup plus d'efforts pour mieux diffuser ces variétés. Et il faut également aussi faire un peu d'effort pour produire des semences de qualité. On en produit toujours, mais ce n'est pas suffisant. Mais il y a un autre facteur aussi. En bref, donc, c'est visé à ce que le taux d'utilisation des variétés améliorées et des semences de qualité, qui est actuellement de 6%, passe à 30% en 2018 et à 50% en 2020. Bon, voilà, je vous ai brossé très brièvement la situation à Madagascar. Je vous remercie de votre attention. Merci.